Radio Éphémère 89.1 MHz.
Désolé, bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Éphémère, vous n'avez pas eu le top sonore, je suis désolé. Nous sommes le samedi 13 mai 2006, waouh déjà, et vous écoutez la radio comme tous les samedis. Éphémère ouvre avec les magazines Supplément Week-end, BD, cinéma, télévision, suivi du cahier du sport, puis à partir de 15h du mix avec Zarma Farai, c'est du reggae, 17h c'est du punk avec Vie d'Ordure, 18h tu peux l'ouvrir, c'est une émission participative, numéro à station est 05 61 580 580, 20h l'esthétéro expérience. Exprès. 21h30, c'est tout aussi barré en électro, Liquid Sky. Et 23h jusqu'à 3h du matin, et même pas mal de pelure, Breakbeat Experience. C'est la Jungle et Drama de Base. Bonjour Thomas.
Salut Xavier, tu profites de la pluie?
Ouais. Non, je profite que je suis à nouveau en régie, peut-être. Non. Oh, je suis désolé. Chers amis auditeurs, je suis désolé. Le lancement de cette émission tient à la catastrophe en forme absolue.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
On s'en fout, on est en direct et pas en public cette fois-ci. Du sport va arriver en cours d'émission comme d'habitude. Et émission plutôt light d'ailleurs dans la programmation aujourd'hui. Mais bon, ça tombe bien parce qu'on a quand même pas mal de brèves à côté. Voilà, zou, on en voit. Elizabeth True, Chris Her Love. La grand mother de la drum and bass.
It's taken some time to finally come around, to understand your love, to know that it's the only kind. I feel so afraid to step up to your doorway.
Ooh. Voilà les bandes de petits jeunes, c'est ça que j'appelle de la jungle drum and bass. C'est ce genre de son très organique, très soft et tout. Voilà.
Non, 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 c'est pas ton genre en plus ça.
Ah, je préfère nettement ça. Ah. Je te dis pas comme j'étais super heureux quand cette compil est sortie, c'était super rare, on les guettait, tu vois. Ouah, ça change des MC avec les voix comme ça. Ceux qui se prennent pour des rappeurs et tout ça. Spécial big up MC Newsman qui est dans le quartier. Donc voilà, puisque ce soir il fait une soirée, je ne sais plus où. Je crois que c'est à la plage, non? À côté. Enfin, c'est là où il y avait avant l'Aqualand. Non, pardon, voilà, je déconne. Zou, ceci dit, je voudrais faire une spéciale dédicace à Anne Mignard qui est à ma place ce week-end au congrès des radios associatives qui a lieu en ce moment du côté de La Rochelle, puisque voilà, ça s'est décidé dans les derniers jours, c'était soit moi qui y allais, soit elle. Finalement, elle y est allée, bah tant mieux si elle s'en sort. Et Philippe Frézière qui lui s'en est sorti, mais physiquement de son opération. Philippe Frézière, c'est le président de Radio FMR, et donc il sort d'une opération chirurgicale, donc voilà, il s'en est sorti. Et comme d'habitude, moi et mes camarades du comité antenne autoproclamé, on est très malheureux parce que notre tentative de putsch a loupé. Voilà, c'est un bon vieux gag.
Une tentative de putsch relatée en images.
Ouais, enfin, c'est du ultra classique. Et en fait, non, je m'étais pas trompé de CD. Voilà, il faut que je change quand même de CD. Voilà, la volée. Je me suis planté dans ma prog. Voilà, mais bon. Voilà, c'est ça. Ça aussi, ça fait partie de la jungle. Ah, c'est du son purement dub. Mais bon, allez, hop. On est pas là pour ça. On est pas là pour ça. On va entamer Supplément Week-end avec une partie qui est consacrée primo à un enterrement de première classe pour la culture en France. Puisque donc la fameuse loi sur le droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, la DADVSI, la transposition tout répressif en fait d'une directive européenne inspirée par les États-Unis, voilà, et fortement avec un très fort lobby d'Apple, Microsoft et Vivendi, elle vient de passer grâce à des sénateurs. Et c'est pas n'importe quel sénateur qui a supprimé les amendements les plus doux, c'est Michel Charras. Et tous les socialistes se sont dit non, il faut pas que les petits jeunes puissent copier les CD et tout, etc. Le problème, c'est que voilà, on n'en est pas à ça, on en est à largement plus loin, puisque c'est pas uniquement problème de copier les CD sur internet et tout, non, c'est pas ça du tout, puisque désormais il faudra acheter un support, un CD, voilà, dont la pérennité se situe entre 1 et 20 ans grand maximum. Et désormais, on va surtout que les industries de la culture vont surtout concevoir des produits à faible durée de vie, variétés, séries télé, et puis voilà. Et les petits labels, vont se ranger du côté des majors et des logiciels de protection numérique. Bref, notre gouvernement a décidé que le patrimoine privé des citoyens n'avait plus le droit d'exister de manière permanente. Il n'est en effet techniquement et pratiquement légalement plus possible de se constituer une collection de disques, de films et bientôt de livres sur les supports pérennes. Ça, c'est Marc Ollagnier, qui est un grand spécialiste, un journaliste de la sécurité informatique, qui le dit, et il a un peu les boules énormes parce que lui, il a des vinyles. Et les vinyles, il a pris la patience de les numériser en MP3, etc., parce que les CD n'ont jamais été édités. Et là, voilà, il est face
à ça. Il est hors la loi maintenant.
Exactement, tout comme moi, tout comme plein de gens. Moi, j'ai pourtant 1000 CD chez moi et tout ça. Et quand le CD, quand les lecteurs CD auront disparu et qu'à la place on aura tous des baladeurs WMA ou des iPods, non, ce sera illégal. Donc c'est super. Moi, je dirais par rapport à Marc Ollagnier, plus simplement une chose. Je ferai un rebond sur une news de la semaine dernière. C'est marrant comme cette conception de la culture ressemble à celle de George Lucas.
Oui, c'est-à-dire
que vous allez racheter en fait tous les 5 mois vos films, tous les 5 ans vos films, vous voyez. On sent un peu Enfin, moi, je me
avec des produits que les fans n'attendent pas, et quand les fans attendent un produit qui va sortir, le produit sort juste au moment où le support commence à être obsolète et juste avant qu'il y ait un nouveau type de support qui arrive, quoi, genre le DVD qui devient obsolète et le HD DVD et Blu-ray qui sort.
Enfin, il a surtout fait pour la VHS. Pour la VHS, c'était flagrant, parce que pour le DVD encore, c'est pas complètement flagrant, mais voilà.
C'est le même système, c'est le même esprit.
C'est absolument déplorable, mais bon, on s'en fout, puisque ça m'étonnerait, à mon sens, que cette loi tienne plus de 3 ans. Je vous rappelle qu'on a des présidentielles l'année prochaine, et qu'ensuite, dans la foulée, un an après, on a des élections législatives. Donc, à mon avis, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais voilà, il y a ci, il y a ça, c'est absolument anormal. » Il y a le problème des podcasts, le nôtre est concerné là-dedans. Bref, on est complètement à côté de la plaque. Pour moi, c'est littéralement pitoyable. De toute façon, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait une jurisprudence là-dessus, parce que ça m'étonnerait quand même que devant les tribunaux, beaucoup de juges suivent ça, puisqu'à mon avis, si on dit à un juge, vous savez, le défaut de mon client, c'est d'avoir copié sur cassette, c'est d'avoir copié ses cassettes dans son ordinateur et ses vieux vinyles dans son ordinateur. Quand même, un juge, oui, peut-être qu'il a plus de vis que le dealer de ta rue, comme disait NTM, mais à mon avis, il va se dire, non, mais là, il y a un problème dans la loi, et il y a une dernière possibilité à une loi d'être corrigée, c'est tout simplement la jurisprudence. Alors, avant ça, puisque c'est une loi qui est passée dans l'urgence, ça me fait bien rire, cette phrase, il y a donc une partie, ce qu'on appelle cohérence, entre, ça passe devant la commission des lois, techniquement, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, enfin bon, voilà. Blague à part, début avril, nous avions reçu le 8 avril dernier, Frédéric Boilet, il avait entre autres parlé de son recueil Japon, qui est sorti aux éditions Casterman, qui rassemblait 17 auteurs franco-belges et japonais, pour parler justement du Japon vu par différents auteurs. Figurez-vous qu'un mois après, lors de la 35e édition du prix de la Japan Cartoonist Association, a distingué par son prix spécial le recueil Japon. On n'exprimera jamais le respect et l'admiration pour cette publication qui fera date dans l'histoire de la BD japonaise comme celle de la BD mondiale. Et Boilet a déclaré à ActuaBD, c'est la première fois à ma connaissance qu'un ouvrage présentant des auteurs de BD franco-belge est primé au Japon. ActuaBD d'ailleurs s'est fait primer.
Oui, ActuaBD s'est fait primer car il a été élu meilleur site d'information sur la bande dessinée.
Mais cette fois-ci, c'est pas au Japon, c'est...
Non, c'est bien en France, oui.
Voilà, non. En Italie.
Ah oui, c'était
C'était en Italie. C'est d'ailleurs en collaboration avec BDZoom, qui est un journal d'information qui est quand même un peu moins touffu que ActuaBD. ActuaBD de ce côté-là est une référence absolue. Et d'ailleurs, Thomas.
Ben oui.
T'as le deuxième article.
Oui.
T'as ton log.
Oui. Ben, mes chroniques sont relayées dans ActuaBD.
Voilà, désormais. À noter que les miennes, faudrait que je m'y remette aussi. Donc voilà,
il va falloir que je dépasse un jour tes 46 chroniques écrites.
Ça va pas être dur. Midi, 12 minutes et 14 minutes et 27 secondes. Le temps pour donner une dernière brève. Justement, on pensait que chez Dupuis, la situation s'était un peu calmée, parce que c'est vrai que ça bougeait énormément entre les éditeurs, l'équipe éditoriale, les auteurs d'un côté, et de l'autre côté, le propriétaire des éditions Dupuis, qui se fait racheter il y a un an et demi par Média Participation, le même groupe qui a Dargo et Le Lombard, et qu'on craignait que Dupuis perde son indépendance. On s'est dit, ça s'est calmé, il y a eu un gros bazar entre Keynes, on a dû rappeler en catastrophe comme nouvelle PDGère, comme nouvelle directrice, la femme de Jean Van Hamme, qui sert de médiatrice entre tout ce beau monde. Et bien, figurez-vous que Corinne Bertrand démissionne à son tour. Corinne Bertrand, c'est l'éditrice qui a créé la collection Espresso, une collection de qualité. Et donc elle a démissionné fin avril dernier. C'est vraiment dommage, parce que Corinne Bertrand était une libraire. Elle a ensuite été passée attachée de presse chez Delcourt, où elle s'est faite remarquer auprès des journalistes. Et quand même, elle a fait du bon boulot. Elle était assez passionnée par le travail d'éditeur. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée chez Dupuis comme directrice directrice de collection. Donc c'est un peu dommage. C'est pas fini de ce côté-là. Attends de voir la suite. À mon avis, Dupuis n'est pas finalement bien sorti de cette crise. C'est bien dommage. On entame la bande dessinée.
Quelle transition!
Ouais! Ouais, ça s'entend un peu quand je bouge mes boîtiers.
Mais si, non, si, mais si, non. C'est un coup de vent.
Regarde, là, on a un éléphant qui arrive. Salut du sport. Jenny a 16 ans, elle fait partie de la jeunesse dorée chinoise. Fille unique, obligée par la loi, ses parents, des parents qui sont visiblement aisés. Elle n'a apparemment pas appris à lire dans le petit livre rouge. Jenny, c'est l'héroïne de Jenny, justement, qui vient de sortir dans la collection, chez les éditions Tiao Pan. C'est scénarisé par Lee Jennifer, la Jenny en question, et dessiné par Mu Feng Chun. Elle a passé une année scolaire en Europe, dans l'une des écoles prestigieuses d'Angleterre. Ben oui, on peut se le permettre, donc on va envoyer notre fille loin de Chine, on va l'envoyer... En Europe, mais une fois sur place, elle est complètement paumée. Elle ne comprend pas un traitement d'anglais. Bon, déjà, ça part un peu mal. Moi, bon, j'en connais une autre, hein, mais ça va, elle s'en est mieux sortie. Les traditions surannées des écoles britanniques lui semblent bien bizarres. Vous savez, toutes les traditions mûries depuis 4, 5, 6 siècles. Bref, elle ne comprend pas un traitement et tout ça. Enfin, heureusement, elle va finir par se faire des amis. Je veux dire, autre chose que sa grosse peluche, et s'intégrer parmi ses jeunes camarades, devenir fille au père pour mieux comprendre cette société. Car l'histoire pourrait s'apparenter à l'équivalent chinois d'une shoujo manga. Après tout, cet album, c'est un peu le journal intime d'une lycéenne expatriée. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le décalage que j'exprime au tout début. Pour quelqu'un un minimum âgé, qui a vu à la télé la sanglante répression des étudiants à Tiananmen en 89. Pour tous ceux qui savent que jusqu'à l'an dernier, les citoyens de la République populaire de Chine ne pouvaient légalement sortir dans un autre pays pour tourisme. Bref, pour la plupart des lecteurs européens adultes de ce livre, on se rend brutalement compte combien la Chine communiste a changé et qu'elle s'est ouverte pour devenir compétitive. Mais bon, il y a encore du boulot. Et une fois remis de son étonnement, on se dit que finalement, on lit l'histoire d'une petite fille comme les autres, sortie du cocon familial pour découvrir l'étranger, et aussi l'amour. Son année finie au Royaume-Uni, la petite Jenny, partie pour New York pour faire des études de photographie, est devenue actrice de cinéma. On ne peut pas parler de rôle de composition pour cette première apparition en haut de l'affiche, puisqu'elle joue dans l'adaptation cinéma de Jenny. Et bizarrement, je préfère son vrai nom, New New. Lee Jennifer, au scénario, son autobiographie est dessinée par Mu Feng Chun. Ça s'appelle Jenny chez Chiao Pan. C'est très simple, Thomas le guetter le terminant. Je l'ai terminé cette nuit. Je l'ai terminé cette nuit. Voilà. Yoshiharu Imaizumi au scénario, Jiro Taniguchi au dessin, Seton, le naturiste qui voyage. Le premier tome s'appelle Lobo, le roi des loups. C'est dans la collection Made in Shekana et ça se passe en 1893 dans le Nouveau-Mexique. Et c'est l'histoire d'un loup. Un loup qui pose bien des soucis aux cow-boys. Il dévore quotidiennement moutons et vaches, parfois décimant un troupeau par pure gratuité. Les cow-boys ont bien tenté de le tuer avec des appâts empoisonnés et des pièges à loups. Rien n'y fait finalement. Un vrai démon qui fait qu'on parle d'El Lobo avec crainte, qu'on se demande si par hasard c'est pas Satan ou ce n'est pas un loup-garou. Ernest Chetone est peintre naturiste canadien, parti à Paris, pour tenter d'avoir la médaille du Salon de Paris, encouragé par les excellentes critiques de son premier tableau. Mais finalement, son œuvre suivante sera très mal reçue. Un loup qui dévore à nu un crâne humain, comment oser peindre une bête sauvage qui dévore le siège de l'âme humaine? Sur cet échec, Seton, au lieu de retourner au Canada, décide d'exercer à New York. Ayant entendu parler par une amie de l'histoire d'El Lobo, décide de devenir chasseur pour savoir si oui ou non un tel loup peut bien exister. Il sera entraîné dans une traque bien au-delà de ses espoirs. Ernest Thompson Seton a réellement existé, comme l'indique le cartouche en couverture, 1860-1946. Il fut un naturiste très célèbre, peintre, illustrateur, romancier. Son influence est énorme. Par exemple, son Animaux sauvages que j'ai bien connu fut adapté au cinéma par les productions Disney. Ouais, bon, vous allez me dire, oh, t'appelles ça une influence
Ouais, t'appelles ça une influence?
Bah ouais. Tellement impressionné par ses lectures, Lord Baden-Powell le rencontra en 1906 et lui exposa ses idées pour la jeunesse. C'est ainsi que le mouvement du scoutisme fut créé. Les noms comme Louveteau, Mutt, l'esprit d'observation et de respect de la nature. Tout cela dans le scoutisme vient directement de Seton. L'album, co-signé par Taniguchi, est littéralement superbe. Sur les espaces, les hommes, l'ambiance, mais aussi les bêtes et ce loup singulier qu'est Lobo. Tout est rendu par les mouvements, les postures et le tramage qui donne une très très belle patine à l'image. Néanmoins, on s'en fiche. Néanmoins, j'ai un petit reproche que je lui ferai. Les postures des animaux manquent parfois un peu d'exactitude, mais finalement, on s'en fiche. C'est la beauté du bouquin qui nous emporte et le fascinant face-à-face entre Seton et Lobo qu'on retient surtout.
Ouais, tu parlais des ambiances. Il y a un truc qui me frappe toujours chez Taniguchi. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est tout est gris, en fait. C'est ça qui est rigolo. Quand tu feuillettes vite fait, c'est tout est gris, en fait. Et c'est ça qui est, c'est beaucoup de finesse dans la peinture des ambiances. C'est ça qui fait son charme, en fait.
Oui, tout à fait. C'est là-dessus, il utilise énormément les tramages. Ça, je l'avais bien expliqué.
C'est l'anti-Frank Miller.
Ouais, c'est vrai. Là-dessus, c'est pas loin. Mais d'un autre côté, il y a vraiment une ambiance, une découverte de la nature qui est littéralement superbe. Seton, le naturiste qui voyage. Donc, le premier tome s'appelle Lobo, le roi des loups. Tu parles d'un tome, hein, quand même. C'est un beau pavé. De Yoshiharu Imaizumi et dessin de Jiro Taniguchi dans la collection Kana chez Dargo, dans la sous-collection Made in. Bande dessinée plutôt adulte. René Martin, non, rien à voir avec Jacques Martin, le scénariste de BD, ni avec l'homme de télévision, et pourtant c'est un homme de télévision, Jacques René Martin. Et Tara Halo, au dessin. Casse-Pierre, le premier tome s'appelle La 13e Century, c'est une nouvelle série qui sort donc dans la collection Vécu chez Glénat, qui est une collection qui est consacrée à la bande dessinée ayant pour cadre l'histoire, c'est pour ça qu'on parle de bande dessinée en costume plutôt que bande dessinée historique. Ça se passe dans l'hiver 1830, le bon roi Charles X fait régner la justice dans le royaume de France en guillotinant et le peuple courbe les chines. Je vous rassure, hein, c'est pas un spoiler, mais ça va pas durer longtemps, hein, la même année. Casse-Pierre a presque fini son tour de France en tant que compagnon tailleur de pierre. Son ultime étape est à Paris, l'occasion aussi de rencontrer enfin le riche mécène qui le finance, sans que finalement Casse-Pierre sache pourquoi un homme aussi riche décide comme ça d'aider un compagnon. Mais en chemin, Casse-Pierre va faire des rencontres peu enviables, une famille de timbrés où il va se faire tirer les cartes. Le chef de la police secrète du royaume, Lupin, qui va d'ailleurs froisser, ça n'a pas bon plan du tout. Et d'autres dont je vous laisse la surprise. Arrivé à Paris, il se retrouve dans les quartiers de très mauvaise fréquentation, à la maison de son compagnon d'âge, où les bagarres sont légion entre les différents corps de métier. Et Casse-Pierre sera obsédé par une histoire de meurtre à la bibliothèque royale, ce qui le refera tomber dans les griffes de Lupin. Bref, un fort rogueule qui, au lieu de tailler des pierres pour les églises, va finir par les casser au bagne, on se dit, vu le rythme à laquelle ça va. Jacques-René Martin, donc, est producteur de télévision. Il a notamment créé l'émission Psycho. C'est un homme de théâtre et un romancier. D'ailleurs, cette bande dessinée est en fait l'adaptation d'un de ses romans, d'une tétralogie de romans, si je me souviens bien. Et c'est là le problème, c'est que l'adaptation au support bande dessinée a été manquée par le rythme de l'histoire. L'histoire est très riche et très dense, mais on sent que donc le romancier et scénariste ne savait pas quelle partie supprimer ou s'il fallait délier. Donc finalement, il a tenté un truc, c'est il a usé et abusé d'ellipses, mais celles-ci sont particulièrement périlleuses dans leur trajectoire. Bref, la première lecture de cette BD laisse dans une confusion. Et c'est bien dommage, car le roman original doit être passionnant au possible, à lire vu la densité, mais celle-ci nuit à la BD, du moins au premier tome de la série. Et c'est quand même un petit peu dommage. Jacques-René Martin au scénario, Taralo dessin, Caspierre. Le premier tome s'appelle La 13e Centurie. C'est une nouvelle série qui sort dans la collection Vécu chez Glénat. Et ainsi se clôt nos chroniques de bande dessinée. Ouais, je sais, c'est bientôt la pub, mais je peux mettre une interruption musicale en régie. Merci. The Egg, je le passe souvent en fond sonore, c'est extrait de leur album Travelator qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de succès, c'est dommage, il est super, mais le morceau s'appelle Anyway. Vous écoutez FMR.
Okay.
Travelator, c'est le nom de l'album, Anyway, c'est le nom du morceau, c'est Supplément Week-end sur Radio FMR. Il est midi, 31 minutes et 31 secondes et la régie m'en veut un peu, mais vous pouvez envoyer la pub, les gars.
La réincarnation de Mark Bolan, coupée à la guitare folk de Bob Dylan, Devendra Banhart, sera le jeudi 18 mai au Ramier.
Now that I know the way it goes, you gotta pay back every penny.
Chanson folk et voix planante, Devendra Banhart deviendra grand au Ramier jeudi 18 mai.
In your mama's clothes, shut the blinds and lock up every door.
Le printemps de l'INP se tiendra cette année les 12 et 13 mai à la SDF de Ramonsville. Au programme, le 12, Sidi Larsen, Carpath, les Blaireaux de Ravel et Punish Yourself. Et le 13, Positive Roots Band, Winston McAnuff et In Answer, ainsi que un groupe surprise, vainqueur d'un tremplin. L'hiver est bien fini, la glace a fondu. Alors venez bourgeonner et fleurir au printemps de l'INP les 12 et 13 mai à la SDF de Ramonsville.
Arrêter les vannes débiles à l'antenne, merci.
C'est pas débile du tout.
Non.
C'est pas débile. Thomas.
Ah bah, du sport était en train de nous montrer son programme pour tout à l'heure.
D'accord.
Il y a
okay.
Du costaud, hein.
Ok, il y a du costaud. Bon, d'accord. Ok. Si j'ai bien compris, cinéma.
Ouais, cinéma avec un film qui est sorti. Ouais, oui.
La chronique cinéma vous est présentée par Thomas en son Dolby DHX Mono. Allez hop, on y va.
On va parler de l'adaptation d'Alias au cinéma qui est sortie il y a 15 jours. Et oui, Alias arrive au cinéma et crève l'écran car il est réalisé par J.J. Abrams, le créateur de la série lui-même, himself,
ouais,
le vrai. Donc c'est bien, on retrouve la patte et les producteurs l'ont gardé aux manettes, donc c'est cool. Cette fois, le personnage principal n'est plus la nana de la série, puisque c'est plus la nana, puisqu'elle crève dès le début du film. Mais c'est un mec, son mentor en fait, qui travaille pour une organisation secrète. Il a du mal à concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Bon, ça, on retrouve les ingrédients de la série. La personne qui partage sa vie ignore tout de ses activités mortelles et lui cache la vérité. Et pour notre héros, un travail de tous les instants. Il est à la tête d'une équipe soudée, chacun ayant un rôle bien déterminé, mais quand même, c'est un peu lui la star, tu vois, c'est celui qu'on voit le plus, celui qui exécute les acrobaties les plus invraisemblables, c'est lui l'élu. Son vieux comparse Black, qui le comprend le mieux et a traversé beaucoup d'épreuves à ses côtés, essaye d'élucider avec lui les mystères du meurtre de l'être qui comptait le plus pour lui, assassiné par l'homme en vert, qui il avait le plus confiance. C'est vraiment une sorte de trahison, ils ont tout gardé, mais ça c'est bien ça. Obsédé par la vengeance, il va devoir aussi contrecarrer les plans d'un fou, un démiurge à la tête d'une organisation terroriste. Car ce qui est en jeu dans cette adaptation, comme dans la série, c'est la survie du monde civilisé, car une arme extrêmement redoutable est sur le point de provoquer l'apocalypse. Tout en question d'armes redoutables, rambaldies, tout ça là, des trucs très mystérieux. Ça porte encore un nom étrange d'ailleurs. Car comme dans la série, c'est le mystère des appellations qui crée le charme. Il y a le passager, le monsieur, souvent ça correspondait à des fans d'ailleurs. Et là, l'objet mystérieux se nomme Patte de Lapin. Alors l'équipe du film, les producteurs, ils ont gardé le réalisateur a gardé les personnages de la série. On peut voir Vice, qui n'a aucun petit rôle dans cette aventure, ça c'est un peu dommage. Il y a aussi le mec expert en informatique, vous savez, celui qui fait tout le temps des blagues en racontant plein d'anecdotes pendant les scènes de tension, il désamorce il fait des trucs complètement
le
à côté.
Maladroit quoi.
Ouais voilà. Voilà, s'il te plaît, revenons à la mission quoi. Ils ont gardé aussi le QG avec les murs en verre, il y a même les décors qui sont les mêmes, c'est bien, ils ont tout gardé, ça c'est cool. Mais évidemment, une adaptation de la série ne serait pas digne de ce don sans ses voyages aux quatre coins du globe, Shanghai, Rome, Berlin. Présenté par des cartons écrits en lettres blanches. C'est bien, ils ont tout gardé. C'est vraiment un vrai épisode en version longue.
Même la signature, ok.
On y est vraiment, c'est bien qu'ils aient gardé tout ça. Et puis il y a aussi les scènes d'action nerveuses, ça va à 100 à l'heure, la caméra bouge dans tous les sens. L'équipe est obligée d'aller super vite pour enlever les criminels et recueillir les infos pour faire ces fameux interrogatoires. Ouais, livre-nous la cachette de ton boss, et puis finalement c'était pas le vrai boss, c'était un autre encore plus méchant et tout. De toute façon, je pense que le principal point fort de la série et du film aussi, c'est le rythme. Parce qu'il est savamment dosé. Par exemple, Abrams reprend encore sa marque de fabrique, qui est de commencer par la quasi-fin. La quasi-fin, où le personnage principal morfle sa race, où il y a son copain qui crève, ou alors quelqu'un est éjecté d'un avion. Ici, c'est sa femme qui est tuée sous ses yeux dès le pré-générique. Ouais, ça fout la haine, hein. Ça annonce la couleur, et puis il y a les scènes de Frim dans la rue, avec la musique un peu entraînante, des belles bagnoles, des bijoux, quand le héros se déguise. En fait, c'est tout en l'occasion pour ses partenaires d'admirer sa plastique impeccable. Enfin bref, vous l'aurez compris, il s'agit d'une adaptation très 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 fidèle qui reprend tout ce qui faisait le charme de la série. Enfin, de toute façon, avec le même réalisateur aux manettes, ça pouvait que marcher.
Merci Thomas, c'était donc Mission Impossible avec Tom Cruise, Ving Rhames, Jonathan Rhys-Meyer, Laurence Fishburne et Philip Seymour Hoffman.
Ouais. Là, le générique original qui a été signé par Lalo Schifrin, hein, ce compositeur génial, par ailleurs, touche à tout, enfin, qui a commencé sa carrière, je l'ai déjà dit, mais je le répète à chaque fois tellement il est bon ce mec, quoi. Qui a commencé sa carrière à Buenos Aires puisqu'il est argentin, hein, ouais, fils du chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de Buenos Aires. Donc bon bah ok, hein, il était déjà dans le sérail. Puis il est parti à New York très jeune, vers l'âge de 20 ans, pour jouer du jazz. Il a rencontré Dizzy Gillespie, il a fait plusieurs tournées avec lui, hein, c'est pas n'importe quoi quand même. Et puis il s'est installé pour commencer à faire quelques musiques de films, de cinéma, et il a signé quelques-unes des meilleures musiques en ce qui concerne les séries. Une Mission Impossible, il y a Manix également et bien d'autres. Il faut savoir qu'à un moment, je crois que c'est sur le Mission Impossible 2, quoi, il avait tellement les boules que ses films ne reflétaient pas ce qu'était vraiment la série, qu'il avait carrément laissé les gens faire ce qu'ils voulaient avec le générique, mais bon, qu'il voulait pas être crédité, quoi. C'est-à-dire ça le faisait chier d'avoir son nom accolé à cette espèce de gros truc que sont les films Mission Impossible. Qui, ça, si dans le premier film, bon, il y a encore un petit soupçon de ce qu'était la série, ouais. De ce qu'était la série, de ce qu'était la thématique de la série, il faut dire que dans le numéro 3, il n'y a plus rien, c'est que dalle, hein, c'est du Tom Cruise. C'est tout. C'est comme
même,
si
même le premier, hein, pour moi, le premier n'a rien à voir, franchement.
Oui, bon, alors, oui mais
il a quand même quelques sidekicks qui sont supposés être les personnages choisis. Tu sais, dans le générique,
c'est quand même Phelps.
T'as Jim Phelps qui est là, bon, bah, il y a le Magneto qui crame et tout, puis ensuite, ouais. Bon, tu vois dans le générique, il choisit avec des photos, celui-là je le prends, celui-là je le prends.
Voilà. Et puis t'as le générique aussi qui reprend des séquences très 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 courtes qui sont pas d'ailleurs dans le film. Il y a De Palma qui a joué avec ça. Puis vous êtes gentil, mais vous critiquez surtout le 1, le 3, mais c'est parce qu'ici on adore John Woo, mais quand même le 2, c'est quand même une super furie énorme. Hein.
Ouais, bon. C'est alimentaire, mon gars.
Oui, c'est bien foutu, mais c'est quand même une arnaque. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Parce que bon, faut quand même revenir à l'origine. Hein. Les créateurs de la série, ils ont voulu faire une grosse métaphore sur ce qu'est le théâtre, quoi, en fait. C'est tout simple. Avec, dans le générique, justement, le choix des cartes et tout, c'est le casting. Hein, et ensuite la mise en place. D'abord on répète, d'accord, ok, hein, on les voit généralement en début d'épisode et tout, qui s'imprègnent un petit peu de ce que va être leur mission. Donc là répétition et tout. Puis ensuite bon bah ok, ben dans le feu de l'action et tout, ça y est, on est sur la scène, on joue la pièce de théâtre pour arriver à la conclusion. Voilà, c'est tout simple. Et chaque épisode est construit de la même façon, de toute façon dans la série, ce qui n'est absolument pas respecté dans les films. Mais alors absolument pas du tout. Merci les gars, merci Tommy. Il faut aussi dire que le film, on en parlait un petit peu en aparté.
Ouais, tu m'as scié là d'ailleurs.
Hein, le film a coûté 150 millions de dollars, d'accord.
Alors, qui a été la plus grosse somme allouée à un premier film quand même. Parce que si J.J. Abrams s'est fait la main sur Lost ou sur Alias ou sur Felicity, c'est quand même son premier long métrage. Hein.
Ouais, bon, enfin bon, c'est également un mec qui est issu du sérail, hein, vu que c'est le fils d'eux. Hein. Ouais. Abrams, c'est déjà des producteurs, c'est déjà un producteur. Hein, donc lui, producteur, scénariste et tout, lui, bah, il était déjà sur les rails, hein, de toute façon, quoi. Ce qui n'enlève rien à sa qualité, hein, je veux dire, avec Lost, il a réussi le super carton.
C'est clair.
A également fait Felicity que t'as cité, ça c'est très bien, parce que ça n'a rien à voir avec Alias, rien à voir avec
Lost.
Avec Lost, hein, c'est complètement différent. Et c'est une série qui a très bien fonctionné aussi, enfin, qui est aussi très très agréable à regarder, mais qui n'est absolument pas une série d'action, vraiment pas, ça n'a rien à voir, de toute façon.
On fait une petite interruption musicale.
Oui, alors, excuse-moi, parce qu'on parlait du budget.
Voilà, je disais 150 millions. Mais dont 95 millions pour le seul Tom Cruise. En tant que salaire d'acteur, producteur et tout ça.
Et prêtre scientologue.
Oui, non, bon,
je sais pas si ça entre en ligne de compte, mais c'est quand même un pourcentage assez farabine.
Le prêtre scientologue, c'est dans les 55 millions qui restent.
On fait une interruption avec un groupe qu'on a beaucoup kiffé FMR quand on les a fait venir, c'est Lassie. Et ils sont du coin, alors Lassie, la fidèle, hein, transition pour la télé, non, bon d'accord. C'est nul.
Art is art. Life. morte. Glorifier le contenant du vide. Se soucier de ne rien ajouter. Pervertir l'illusion de la postérité. Fantasmer pour exister. Dilettantisme, incompétence, sans la garantie du plaisir. Je renie l'usage des galeries et du club des artistes. Tous les professionnels de la culture sont des pompes à merde. Information, spectacle, propagande, publicité, sont les modèles de la vie. Sa vie à l'art, car l'art c'est la vie. Art is life. Modern art. Fashion art. Art sweet art. Glory art. L'art se présente comme une énorme facétie. Mais la question la plus profonde est celle de la vérité. Éthique, politique, esthétique du tragique sont le manifeste de l'art et le manifeste de la vie. C'est le procès de l'art et le procédé de la vie. Gloire à l'art. Gloire à l'art.
Tout à fait, la loi des ADVSI, c'est ça. Voilà. Du sport. On prévient quand tu vas tousser.
Ne t'emmêle pas avec tes feuilles là, tout ce programme.
Ah, la musique, ouais, ouais.
Non, ça, c'est pas ce que tu crois, c'est ça.
C'est... non, mais bon, ça fait un petit peu, tu vois, église et tout, quoi.
Eh ben, très exactement, c'est Low Fidelity All Stars, Dark is Easy. Voilà, c'est un hasard.
Avec, on va commencer par la parution d'un nouveau supplément qui n'est pas un supplément télé et qui sort avec le Libé d'aujourd'hui et qui sera déjà désormais disponible tous les samedis. Alors aujourd'hui, si vous l'achetez, ça coûte encore le prix du Libé normal, mais à partir de samedi prochain, ça coûtera 2 euros.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans Aden ?
Alors, c'est pas Aden, ça s'appelle Écran, avec sous-titres télé, internet, cinéma, DVD, là. Tout ça. Et bon, il y a en plus Serge Julie, quoi, le meilleur ami de la droite, qui fait un super édito dessus, quoi. Hein, lui, il vend bien ces trucs.
De toute façon, s'il y en a un qui est pas d'accord, il va chercher 1 million d'euros.
Ouais, il vend bien, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et donc, bah, je me suis dit, super, putain, génial, un truc sur la télé, excellent. Nickel, quoi, tu vois. Et bon, bah, on reste un petit peu sur sa fin, on va dire. Hein. Il y a, concernant la télé, il y a un dossier qui concerne la fiction en France. Alors là, c'est pas mal. Hein. Justement, j'avais quelque chose à vous dire sur la section recherche.
Ah, le nouveau truc de TF1.
Avec Xavier Deluc dans le rôle principal. Et Jean-Pascal. Jean-Pascal.
De la Star Academy.
Non, pas la Star Academy. Non, le Loft.
Non, Jean-Pascal, c'est la Starac.
C'est la Starac.
Le maître nageur de Biarritz qui savait pas chanter.
T'es sûr?
Oui, j'en suis sûr.
My name is Jean-Pascal. Oh, pardon, excuse-moi.
Non, mais j'ai bossé là-dessus, mon cher ami. Jean-Pascal. J'en suis pas fier.
Et là, il est en uniforme et tout, parce que bon, section de recherche, ça se passe. Là, c'est la gendarmerie. Hein. Ok? La gendarmerie française, à l'honneur. Dans cette série. Avec,
il va devoir se tenir pour éviter de renifler le cul des filles. Tiens.
Non, parce que là, bon, bah, il a. Si tu veux, il a le même rôle que Jean-Paul Rouve dans Julie Lescaut. C'est-à-dire c'est le mec qui reste au bureau, qui est en uniforme, et puis tiens, tu me feras un petit topo sur machin et tout, tiens, va me chercher un café et tout. Enfin bon, et puis non, bon, il a gardé son accent et tout. Enfin bon, c'est,
non, mais Jean-Pascal sait pas lire, donc déjà il y a un problème. Fais-lui lire un script d'acteur. Ah, tu rigoles pendant une heure.
Bon, et visiblement, bon, il a encore des progrès à faire au niveau de, au niveau de ses performances d'acteur. Bref, que vaut cette série vite fait. Bon, je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé le premier épisode en entier. Hein, je suis tombé sur la fin parce que bon, bah, y a d'autres trucs plus intéressants. Hein, y a Top of the Pop sur BBC. Quoi, alors bon, faut pas déconner quand même. Quoi. Et par contre, bon, bah, y a quelques invraisemblances qui vont certainement pas plaire aux gendarmes. Hein, tu vois, parce que bon, bah, les gendarmes, surtout les gendarmes. Les flics,
je rappelle que la série RIS s'est fait démonter dans la blogosphère et notamment par des spécialistes.
Ce qui n'empêchera pas qu'on en reverra. Hein,
oui, bah, ça a marché.
De toute façon, ça a marché. Au niveau
40%
du match,
de part de marché,
problème, bah,
ça a marché.
mais par contre, si on sait que chez les flics, ça arrive de temps en temps qu'il y a un franc-tireur et tout, bah, alors les flics, il y a le truc, il faut qu'ils aillent toujours par deux et tout, ça c'est vrai pour les ricains et tout, mais de temps en temps, il y en a un qui va quand même tout seul et tout, mais t'aurais pas dû le faire et tout, là, et ben, tant pis, t'as fait la connerie.
Ouais, la tête brûlée, ouais, le
c'est
grand
ça,
tout
c'est
mou.
Ça. Par contre, chez les gendarmes, c'est vachement structuré, hein. Bon, bah, c'est des militaires,
c'est l'armée.
Y a pas de problème, c'est l'armée, hein, donc hein, on plaisante pas avec le règlement. Et là, bon, bah, ok, fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on voit? Bah, Xavier Deluc qui se tire avec la bagnole, hein, qui va rechercher, qui part à la poursuite du fils du mec, qui est soi-disant suspect d'enlèvement d'enfants. En plus, c'est vachement d'actualité, tu vois, le truc qui tombait.
Il tombait à pic!
Juste à pic, hein, pas de problème, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont dû faire des putains de parts de marché, quoi, jeudi dernier. Et en fait, ça c'est complètement invraisemblable, hein, c'est-à-dire jamais, quoi. Et puis bon, direct, tu vois, tu le vois, il arrive sur le lieu où l'autre mec, le jeune garçon détient le petit enfant, le jeune garçon qui a carrément le fusil à pompe, tu vois. Dans la campagne, ça se passe en Dordogne, hein. Ça se passe, c'est situé en Dordogne. Et tu vois carrément Xavier Deluc qui sort de la voiture. Alors déjà, il te fait un arrêt glissade, frein à main et tout, tranquille, il sort de la bagnole direct, il sort le gun et tout, tu vois, gendarme, quoi, à fond les manettes, quoi. Bon, c'est pas tellement vraisemblable quand même. Enfin bon, faut quand même un petit peu d'action, quoi, tu me diras. Voilà. Revenons donc à ce supplément Libé qui s'appelle Écran, avec par contre un truc qui est très très bien, c'est un petit interview, mais alors par contre, il y a 48 pages dedans, le seul truc qui a l'air assez intéressant, enfin j'ai pas lu le reste pour l'instant, mais, concernant la télé, c'est ce petit truc qui fait même pas une demi-page, quoi, et c'est l'interview d'un sociologue qui s'appelle Éric Massé et qui a sorti un livre qui s'appelle La société et son double, une journée ordinaire de télé, où pendant plusieurs années, bah, il a essayé de décrypter un petit peu les différents personnages, les différents composants de la télé, et quelle était la représentation en fait sociétale des gens à l'intérieur des séries françaises. Et là, eh ben, c'est vraiment sans appel. Lui, il descend carrément le truc, mais alors assez grave. À la question, vous pointiez la sous-représentation chronique des minorités comme les Arabes, les homosexuels, les femmes, les pauvres, y compris dans les fictions. Elle lui répond, la télévision ne reflète pas la réalité sociale, mais l'idée que se font les professionnels des attentes d'un public qu'ils ne peuvent qu'imaginer. Pouvant tirer aucune information qualitative des données d'audience, ils doivent construire des discours sur l'état de la société, sur l'individu, sur les publics, afin d'élaborer ce qu'ils pensent être le conformisme du moment. Là, déjà,
c'est tout à fait ça. C'est, hein, dingue, mais c'est exactement ça.
Et il continue, parce qu'il a commencé cette étude il y a un petit peu plus de 6 ans. Et donc la question, 6 ans après, avez-vous observé des changements? Et il répond, les raisons du conservatisme sont structurelles. Elles tiennent à l'état du débat public et à l'économie d'un système télévisuel faiblement concurrentiel entre les rentes de TF1 et la frilosité des chaînes publiques. Sans compter le faible investissement créatif et intellectuel en faveur de la télévision dans un pays qui a fait le choix politique du cinéma contre la télévision. Et il termine, toujours dans la même phrase, dans la même réponse, paradoxalement, c'est au sein de la télévision commerciale états-unienne qu'on trouve le plus d'audace créative, à la fois dans les thèmes abordés et dans la manière de les mettre en écrit. Mais c'est aussi parce que la question politique des discriminations est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'elle ne l'est en France.
Oh, je pense
des choses qu'on répète, hein, pratiquement à longueur d'émission, quoi.
C'est fou. Mais en plus, en Angleterre aussi, où la question des discriminations était arrivée en pointillé, finalement, c'est la télévision anglaise qui pourtant a été considérée comme très psychorigide, qui est la plus créative et la plus ouverte. C'est fou, c'est.
Voilà.
C'est
alors bon, par contre, il y a des trucs qui ont l'air assez intéressants. J'ai noté un reportage sur une photographe chinoise qui s'appelle Cao Fei et qui fait des photos qui sont vraiment pas mal, qui sont un petit peu trip manga. Quoi. Attends, je vais te trouver le truc. Je vais te montrer quelques photos. Là, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est
nous assez sommes bien en coupé, direct.
Quoi, tu vois, là, regarde.
Ah ouais.
Tu vois des photos comme ça, quoi. C'est assez rigolo.
Ah
et
oui.
Bien sûr, tout ce qui concerne
elle
le numérique.
Elle est exposée actuellement à Paris.
Ouais, voilà.
Ouais, ouais.
Ouais, certainement pour ça. Et tout ce qui concerne le numérique. Enfin bref, il y a un petit côté au niveau de la mise en page un rock, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Hein, franchement, il y a un petit côté comme ça.
Oui, oui, oui,
ça
c'est pas loin.
Un rock, hein, de toute façon, quoi. Ok, mais sinon, bon, bah, ok, hein, je le dis franchement, et je le dis en plus, en étant un petit peu vulgaire, ça va faire chier de payer 80 centimes d'euros de plus, rien que pour avoir ce truc-là, quoi. Franchement, franchement, quoi. Hein. Mais
bien,
bon,
bien. Hein,
voilà, tiens, je te le donne.
Ah, merci.
Alors, parlons un petit peu de télé avec tout d'abord, du tout venant, quelques petits guests qu'on va pouvoir. Admiré à la télé dans des séries. Tout d'abord Anthony Lapaglia qui est actuellement à l'antenne sur France 2 tous les dimanches soirs dans Portée disparue, qui a fait quelques petites apparitions. Et là c'est quand même assez remarquable parce que Lapaglia était plutôt cantonné dans des rôles dans des séries qu'on va dire un petit peu dramatiques, policières ou judiciaires, hein, on va dire. Hein. Et là, on va le voir dans un épisode de Frasier. Hein. Frasier, c'est un sitcom dont je vous ai déjà parlé, mais qui est assez difficilement regardable en France, hein, parce que bon,
ça a pas marché d'ailleurs. Ils ont tenté,
ça a pas du tout marché. Série Club rediffuse Frasier dans son intégralité. Hein. C'est un des seuls crédits qu'on peut apporter à cette chaîne, hein, qui est vraiment descendue très très bas. Et dans l'épisode de ce soir, vu les horaires de programmation de Frasier, quoi, sur Série Club, faut vraiment vouloir le voir, quoi, tu vois, quoi. C'est à partir de minuit dix, Frasier. Donc apparition d'Anthony Lapaglia ce soir. Il y a également au niveau des séries vendredi prochain dans New York District, c'est-à-dire avec la saison 15 avec Denis Farina. Et Denis Farina, et c'est qui l'autre?
Ah non, tu me poses la question.
Ce sera la question pour la semaine prochaine. À l'apparition de Michael Imperioli. Michael Imperioli pour une fois. Et du bon côté de la barrière, on le connaît dans Les Sopranos, Michael Imperioli qui joue le rôle du neveu, je crois, de Tony Soprano.
C'est le crétin.
Le crétin est pas si crétin que ça quand même.
Enfin bon.
Enfin qui commence à faire le con, qui prend de la dope, il va d'ailleurs à un moment de la saison 2 ou 3, il se fait carrément emmener par toute la famille dans une clinique de désintox et tout. Enfin bon, c'est lui qui se tape la nana la plus bandante de la série là. Qui a d'ailleurs joué dans un film d'Abel Ferrara, je me rappelle pas son nom. Bref, Michael Imperioli qui par ailleurs, en dehors de ça, n'est pas qu'acteur, mais qui est également scénariste assez bon scénariste, et qui donc fait une apparition dans New York District la semaine prochaine sur 13e rue vendredi à partir de 20h45. Et du bon côté, hein, parce que j'ai vu la photo, il a le badge des flics, donc il y a pas, c'est peut-être un flic pourri, mais enfin bon, ça se découvrir. Smallville tous les samedis sur M6 à partir de 20h50. Alors si on a été dégoûté par la dernière saison, sur les premiers épisodes de la dernière saison de Smallville, parce que je vous avais dit ouais, l'apparition de James Marsters, hein,
il est plus
Spike,
maintenant.
Et ben on peut dire que samedi dernier, ça a dépoté grave, excellent, vraiment très très bon, hein, dans le rôle de Milton Fine, là, le kryptonien là, qui vient, on sait pas trop ce qu'il veut faire et tout. Et c'est quand même lui qui sauve Superman, merde, faut pas déconner, hein. Bravo quand même. Smallville, donc c'est ce soir sur M6 à partir de 20h50. Sinon, ce soir également, là c'est du must quand même, c'est du must, c'est le premier téléfilm de Columbo ce soir sur TV Braise à 20h50.
Celui réalisé par Spielberg ?
Non. Spielberg on a réalisé un peu plus tard, celui-là il a le premier, donc en 67, Prescription Murder, avec Jane Barry, qu'on verra apparaître encore plusieurs fois, hein, dans les décennies suivantes, dans les Columbo, hein, c'était un guest plus ou moins régulier. Donc c'est ce soir, hein, sur TV Braise, à vos magnétoscopes, non, à vos enregistreurs DVD plutôt, pour ce tout premier épisode de Columbo.
On n'aura plus le droit.
Ah ouais, mais bon.
On n'aura plus le droit d'enregistrer les émissions. Merci les sénateurs, merci Charras, merci le PS, merci l'UMP.
Tu vois, on prendra le gauche, mon gars. Sinon, ce soir, toujours un petit crossover. Et là, yes, quand il s'agit de séries haut de gamme, ben, on va pas gâcher notre plaisir
fans,
quand même.
Ouais.
New York Unité Spéciale depuis 15 jours, c'est la saison 7, donc des épisodes inédits. Alors il y avait celui avec Robert Patrick qui était magnifique, qui était excellent, vraiment super, hein, vraiment très très bon. Là, eh bien, ce sera un crossover, bien entendu. New York Unité Spéciale, c'est une déclinaison de New York District Law and Order. Et là, eh bien, il va y avoir le crossover avec New York District. Ça commence par un épisode de New York Unité Spéciale saison 7 qui s'appelle La Manipulatrice. Et ça continue avec un deuxième épisode, La Manipulatrice, mais dans New York District. Et avec comme invité dans New York District, Linda Carter. Wonder Woman, les gars.
Ah,
Wonder
oui.
Woman. Oh, oui,
ah, mais elle est vieille maintenant, non?
Ouais, bah écoute. Est-ce qu'on peut hein.
tu dis pas de mal de Wonder Woman s'il te plaît,
non,
quand même
pas dire de mal de
non non elle était elle, là, elle était elle oui. était
sinon il va nous passer le générique hein.
Bah oui, tout à fait. Non mais je l'ai pas, je l'ai sous la main, pardon.
De la série nouvelle neuve qu'on n'a jamais vue à la télé française, c'est lundi soir sur M6 et les programmateurs ont pété les plombs à mon avis. ils ont dit je sais pas, enfin bon, ils ont dû péter les plombs. Parce que cette série qui s'appelle Révélation, et qui est une mini-série, on va dire, hein, qui ne compte que 6 épisodes, eh bien, les 6 épisodes vont être diffusés dans la soirée de lundi prochain, hein, de 20h50 jusqu'à 1h30 du matin, 6 épisodes de Révélation. Alors, l'histoire est simple, hein, c'est on va mettre deux personnages qui, a priori, sont antinomiques ensemble, et comme en ce moment, les séries qui parlent de parapsychologique, de supranaturel, ça marche vachement à fond les manettes. Hein. Medium avec Patricia Arquette, il y a également Miracle, il y a également la série anglaise, je ne me rappelle pas son titre, avec Bill Patterson. Là, eh bien, c'est avec Natasha McElhone, qui joue le rôle de Sœur Josepha. Sœur Josepha, c'est-à-dire c'est une bonne sœur.
D'accord.
Okay. Et Bill Pullman qui joue le rôle du professeur Massey, également avec Michael Massey, ne pas confondre avec le professeur Massey, et avec Martin Starr ce lundi prochain, donc à partir de 20h50 sur M6. Sinon, mercredi prochain, Véronique à Mars sur 13e rue, c'est les deux derniers épisodes de la saison 1. Attention, avec l'épisode Le coup du dentiste et enfin la vérité sur Lily. Parce que depuis le début, on veut savoir qui a tué Lily Kane. C'est d'ailleurs le fil conducteur de cette série. Hein, c'est ça, hein, c'est le meurtre de Lily Kane, la meilleure amie de Véronique Mars. Il y a également la disparition qui est certainement liée hein, au meurtre de Lily Kane, la disparition de la maman de Véronique Mars. Et d'ailleurs, dans l'épisode de mercredi dernier, eh bien, on apprend que ça va vraiment très très bien entre la mère du meilleur copain de Véronique Mars et le père de Véronique Mars.
Ah, ça va très très bien.
Et Véronique, elle est pas contente du tout. Elle est pas contente du tout parce que bon ben, son père, il a que sa mère comme ça et tout. Sa mère a disparu. Enfin, Véronica, à un moment, réussit à la trouver, mais ça se passe dans de mauvaises conditions et la mère a l'air vraiment flippée, genre non, tu dois pas être là, casse-toi, c'est trop dangereux pour toi. Enfin bon, c'est le petit mystère qu'il y a dans Véronica Mars et qui est très très intéressant, qui est vraiment très très prenant. À noter également dans les acteurs qui jouent dans Véronica Mars, je vous avais parlé de Francis Capra. Et Francis Capra, je vous avais dit, ouais, bon, apparemment, il n'y a pas de lien de parenté, mais si, c'est l'arrière-petit-fils de Frank Capra. Ouais. Ce qu'on ne pouvait difficilement deviner, vu que Frank Capra est un wasp, hein, un blanc, et que Francis Capra, qui joue dans la série Veronica Mars, bah, il joue quand même le rôle du chef des, enfin, c'est le mec qui traîne avec les hispanos, vu qu'il a un petit type hispano, on va dire, quand même assez marqué, quoi, tu vois. Alors bon, c'est pas tellement ça, quoi, mais bon, voilà, c'est quand même l'arrière-petit-fils de Frank Capra, le cinéaste, le réalisateur d'entre autres La vie est belle, enfin bon, des monuments du cinéma quand même. Hercule Poirot, le train bleu hier, pas mal, vraiment pas mal. Eh bien, on continue dans les inédits avec vendredi prochain à 20h45, carte sur table, et ça c'en a un que j'ai lu, alors bon, c'est pas mal, c'est cool, avec comme guest, enfin bon, c'est pas vraiment un guest, mais enfin bon, c'est une actrice anglaise confirmée, Zoe Wanamaker, qu'on a vu dans cette série anglaise excellente qui s'appelle My Tribe, hein, ma tribu, et qu'on voit également dans comment il s'appelle là, le type qui a des lunettes là, qui arrive dans un château pour apprendre les tours de passe-passe. Ça te dit rien là?
Une série?
Non,
ah
non,
si,
les
si,
films,
si, Harry Potter.
Harry Potter. Elle joue le rôle, elle, un rôle récurrent.
Un mec qui a des lunettes, c'est un petit gamin quoi.
Elle tient un rôle récurrent hein, dans les films Harry Potter, hein, de toute façon quoi. Voilà donc pour ça c'est bon. Attends, ouais, c'est un peu le bordel hein, de toute façon. Les feuilles, voilà, hop. Ensuite,
il faudrait que tu investis dans un cahier du sport.
Ouais, non, mais bon, c'était le bordel à préparer. Alors bon, Da Vinci Code. Je vous ai fait un spécial Da Vinci Code, hein, parce que je crois que ça sort bientôt là.
Ouais.
Il me semble, hein.
Oui, oui.
D'accord.
Bientôt.
Eh bien, à la télé, on peut se taper. On va pouvoir se taper plein d'émissions qui sont souvent à décharge par rapport au Da Vinci Code. C'est normal, hein, on est du bon côté, nous. Si ça avait été écrit par un Français, pas de problème, tu vois. Mais là, c'est Dan Brown qui l'a écrit, donc ok, on peut taper dessus à fond les manettes. Et ce sera le cas certainement dans l'émission Secret d'actualité animée par Laurent Delahousse. T'as vu, il a laissé tomber les lunettes, il a mis des lentilles et tout. C'est dit demain dimanche à 22h30. Vérité et mensonge, les secrets du Da Vinci Code. Avec, ça peut être intéressant, comme invité, Ron Howard et Jean Reno. Jean Reno,
ça sent
on
la promo là.
Ouais, bah, promo oblige, c'est normal. Hein, ils vont être à Cannes bientôt, puisque le film est projeté en avant-première à Cannes.
Mercredi prochain.
Donc, c'est normal. Mais enfin, bon, Ron Howard, hein, c'est quand même un mec qui a de la bouteille. Il a fait quelques films intéressants quand même.
Il fait des films.
Moi j'ai bien aimé Backdraft, tu vois, des trucs comme ça. Moi j'aime bien quoi, dire bon, ça va pas péter haut, mais enfin bon, tu te fais pas chier quoi, c'est intéressant quoi. Et puis bon, Apollo 13, c'est pas nul non plus quoi. Enfin bon, voilà quoi. C'est pas des daubes quoi, c'est pas des trucs géniaux, mais bon, ça se laisse regarder. Hein.
C'est le fuzzer, ouais.
Non, c'est un film du dimanche soir quoi, tranquille, ouais. Pas de problème. Et bon, c'est un monsieur qui est depuis tout petit, il est dans les séries, hein, de toute façon.
T'as pas générique sous la main, Xavier?
Allez.
Lequel?
Ah, Happy Days, Ron Howard. Allons.
Tu suis pas là, hein. Ça c'est pas bien.
Il suit pas du tout. Da Vinci Code, donc, alors demain soir sur M6 dans Secret d'actualité. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums. Ready to race to you. These days are ours. Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy.
Ah oui.
Voilà, Ron Howard, qu'on ait que nous en Europe à dire que c'est Ron Howard et tout, parce que tous les Américains, tous les ricains qu'ils connaissent depuis qu'il est tout petit, hein, ils l'appellent Opie, son petit surnom quoi qu'il avait dans la série. C'est assez rigolo quoi d'ailleurs. Et puis bon, lui ça l'emmerde pas du tout quoi. C'est-à-dire qu'en plus il renie pas du tout son passé. Bon, bah, même s'il trouve que c'est un petit peu léger, hein, que ça l'a pas du tout aidé pour sa carrière future de réalisateur, il renie pas du tout. Il a trouvé ça très rigolo. Hein. Puis bon, c'est normal. Hein, ça ou aller à l'école, hein, je veux dire. Bon, il y en a beaucoup qui choisissent.
Et tu sais ce qui est devenu Fonzie?
Fonzie, bah, Henry Winkler, on l'a vu dans Scream, c'est un producteur avec...
MacGyver.
MacGyver, eh oui. Enfin bon, il a bien réussi aussi, hein, de toute façon, hein, sans problème. Da Vinci Code encore sur Discovery Channel demain soir. Soirée Da Vinci Code avec à 21h le DVC, le Da Vinci Code décodé, et à 21h55 alors la première partie, donc à 21h le DVC décodé, c'est à charge, et à décharge à 21h55 les grands complots à l'épreuve des fêtes avec Dan Brown, donc le mec qui nous a commis, ce best-seller sur Canal+. On n'est pas en reste et c'est normal. Canal+ qui suit le festival Le Canard font les manettes et donc ils vont en profiter. Hein. À 22h55 mercredi prochain, et bien un petit documentaire sur les traces du Da Vinci Code à Paris où ils ont suivi le tournage,
oui, le tournage
et les petits à côté du tournage Da Vinci Code.
À mon avis, ce film va vampiriser cette édition, je pense. D'ailleurs, ça va être aussi intéressant puisque l'année dernière, ils avaient fait les Guignols avaient fait un running gag sur Kusturica. Là, ça va être Wong Kar-wai. Je sais pas ce qu'ils vont trouver cette année.
J'ai pas de feed.
Peut-être des...
regarde pas.
On a également jeudi prochain sur Paris Première à 23h dans l'émission Petite Confidence entre amis, hein, qui est une émission dans le temps. On avait Paul Amar qui faisait un truc comme ça qui s'appelait je sais pas comment, enfin une émission assez assez bien foutue, hein, où il y avait un invité et puis bon on décodait un petit peu sa vie avec des images arrêtées.
C'était pas dimanche à midi Amar ?
Non, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Là c'est animé par Ariane Massenet qui était de par le passé. Eh bien, la collègue de Marco Olivier Fogiel. Et puis bon, comme il y a eu quelques petits différents, elle s'est barrée. Enfin bon, elle a été jetée. Hein,
ouais, elle a jeté l'ISO maintenant.
Ouais. Et elle travaille dans le Grand Journal et elle a son émission donc sur Paris Première qui s'appelle Petite Confidence entre amis. Et là, jeudi prochain, elle reçoit Audrey Tautou. Donc on va encore parler
encore
du Da Vinci Code.
Ouais, on peut plus. Hein.
Et jeudi,
heureusement qu'on parle de Miss Impossible ici.
Oui. Jeudi prochain à 20h45 sur National Geographic également un documentaire qui s'appelle Les clés du Da Vinci Code. Voilà, bon, bah pour ça, là, vous allez savoir tout ce que vous voulez sur le Da Vinci Code. Hein. Ça a déjà commencé la semaine dernière. Il y avait déjà plusieurs. Il y avait un documentaire sur Rennes-le-Château qui était très intéressant, hein, sur la personnalité du curé de Rennes-le-Château, qui avait l'air assez rigolo. Que j'ai pris juste dans la deuxième partie, mais pas mal quand même. Attends, j'en suis où là, quoi? Voilà, je termine avec le Dr House. C'était mercredi dernier, les deux derniers épisodes de la saison 1. Alors, deux épisodes en un, parce que le premier qui s'appelle Cour Magistral avait comme, je vous en ai parlé samedi dernier, avait comme guest star Carmen Electra, dans son propre rôle en plus, s'il vous plaît. Hein. Et alors là, ils en ont profité. Vraiment, ils en ont profité. Parce que bon, à un moment, t'as un plan de caméra, quoi, où tu vois ses pieds, ça remonte sur ses jambes et tout. Puis bon, elle est en petite culotte, quoi, tu vois. Ça remonte juste contre les jambes et tout. Enfin bon, les mecs s'amusaient. Et quand tu vois Dr House qui dit déshabillez-vous, genre je fais semblant de tourner la tête et puis direct je mate et tout. Enfin, excellent. Et en fait, dans Cour Magistral, c'est un épisode qui est absolument magnifique. Si vous ne devez voir qu'un seul épisode de la saison 1 de Dr House, regardez cet épisode-là. Pourquoi ? Parce qu'il explique de façon très métaphorique ce qui est arrivé à la jambe de Dr House. Dr House a la particularité de boiter et de marcher avec une canne. Ok, on ne sait pas pourquoi, on sait qu'il y a eu un accident, on sait qu'il y a eu un problème et tout, mais il est obligé de marcher avec cette canne. Et en plus, eh bien, il a une douleur récurrente, hein, ce qui fait qu'il est obligé de bouffer des antidouleurs à longueur d'épisode. Tu dois bouffer des pilules et tout. C'est du Vicodine, hein, c'est un truc qui est interdit en France parce que c'est trop fort. Hein, on peut être accro à ce genre de produit, hein, d'accord. Et lui, il y va tranquille et tout. Pourtant, il est médecin, tu vois. Et dans Cour Magistral, dans cet épisode, eh bien, à travers trois patients, qui sont trois patients métaphoriques, en fait, dont Carmel Electra, eh bien, on apprend ce qui est arrivé à la jambe du Dr House et pourquoi eh bien, il boite, pourquoi il a une patte folle. C'est excellent, c'est fait de façon absolument magistrale. C'est de la télé, c'est de la série comme on devrait en voir tout le temps. Enfin, c'est... Je trouve pas de mots, vraiment, tellement c'est énorme. Un Cour Magistral, donc l'avant-dernier épisode de la saison 1. Et en fait, c'est un deux épisodes qui étaient plus ou moins reliés, hein, puisque c'était également le retour de son ex-femme, interprétée par Cela Ward. Et dans le dernier épisode de la saison 1, eh bien, on voit apparaître le mari, donc le concurrent, en fait, hein, puisque Dr House n'a jamais laissé tomber un petit peu, hein, c'est sa femme qui l'a largué, donc il a un petit peu les boules quand même. Et quand elle voit son concurrent apparaître, quand il voit son concurrent apparaître, bon, il a un petit peu les boules aussi, hein, parce que bon, ben, le mec a l'air comme ça, un petit peu rien, hein, c'est un conseiller d'orientation dans un lycée, enfin bon, il a
il rien de spectaculaire, rien, en fait.
Hein, que dalle, hein, alors qu'elle est également, elle travaille comme avocat dans un service juridique, enfin bon, brillante, hein, et lui, bon bah ok, hein, seulement, bon bah ok, c'est lui qui s'est marié avec elle, tout simplement. Et le problème, c'est que bon bah, il va avoir un problème physique, donc on va devoir l'amener à l'hôpital. S'il est le personnage est interprété par Kerry Graham, Kerry Graham qu'on a vu dans la dernière saison de NYPD Blue, où c'est lui qui arrive, qui remplace Esai Morales à la tête de l'équipe du 15e precinct, hein, de l'équipe de détectives, donc qui devient le patron de Sipowicz, hein, et qui au départ est un mec qui est très renfermé, qui d'ailleurs vient des affaires internes, c'est-à-dire qui vient de la police des polices, hein, donc dès le départ il y a un rejet, hein, parce que bon, on sait que les flics n'aiment pas la police des polices, et au fur et à mesure il commence à avoir NYPD, il commence à avoir une certaine complicité entre Sipowicz et le personnage du lieutenant Bell, interprété par Kerry Graham, qui est d'ailleurs dans une autre série où il n'y a rien à voir, où il est complètement délirant, on est tout le temps une chemise à fleurs hawaïennes et tout, et puis bon, les cheveux longs, enfin bon, c'est pas mal. Et dans le dernier épisode, on voit que le Dr House, il manque pas de culot, parce que bon, ben, carrément, il en met pratiquement aux mains et tout, tu le vois à un moment donné, le patient a quelque chose, mais on sait pas, hein, c'est le but un petit peu de la série, à chaque fois, hein, chaque début d'épisode, le patient arrive avec des symptômes, on sait pas ce qu'il a, mais il faut le soigner, mais comment le soigner si tu sais pas ce qu'il a? Et le Dr House a une solution géniale, hein, c'est de lui injecter un cocktail détonant d'alcool, d'amphétamine, de je sais pas quoi, pour provoquer des symptômes qui vont permettre de découvrir quel est son problème, tu vois. Et seulement, bon, ben, comme d'habitude, c'est à la discrétion du patient, c'est au patient de choisir s'il veut provoquer ses symptômes ou pas. Le patient ne veut pas, et puis bon, du coup, sa femme ne veut pas non plus. Du coup, ses collègues, enfin, les médecins qui sont sous ses ordres ne veulent pas non plus. Et puis, bon, ben, carrément, il y va quand même. Et là, un bon coup de seringue dans la cuisse et tout. Enfin, c'est carrément excellent. C'est génial. Enfin, en tout cas, hein, si vous ne devez voir qu'un seul épisode de Dr House, regardez l'épisode qui s'appelle Cours magistral. Parce que tout ça est fait, tout ça est raconté, l'épisode est raconté alors que le Dr House donne un cours dans un grand amphithéâtre avec plein d'étudiants en médecine qui sont là, qui posent des questions et tout. Et donc, bah, on suit un petit peu les questions-réponses entre Dr House et ses étudiants. Et c'est illustré, bien entendu, par les cas de ces trois patients qui sont en fait des métaphores de ce qui arrive à la jambe du Dr House. Et comment il se fait soigner, comment il est prêt de crever, hein, il est prêt de mourir en fait, et on réussit à lui sauver sa jambe parce que bon, à un moment il est question d'amputation de la jambe et tout, pour chacun des trois patients, hein, pour trois symptômes complètement différents. Enfin, c'est grand.
Bon, donc c'était Dr House.
Attends, j'ai pas fini parce que on va quand même terminer en beauté. Dr House, donc c'est terminé, on peut plus le voir. Il y a des épisodes qui sont rediffusés quand même sur TF6 demain soir très tard à 1h du matin, deux épisodes, un en plein chaos et des mots d'amour. Et le Dr House interprété par Hugh Laurie, ben on va faire un petit topo sur Hugh Laurie, quoi, parce que bon, vraiment, ce mec trouve le cul un peu, quoi. Bon, déjà il est pas petit, hein, 1m89, il s'appelle James Hugh Callum Laurie. Callum, c'est le nom écossais pour dire Malcolm. En fait, en écossais, ça se dit Callum. Il est né à Oxford en 59. Il a fait ses études à Eton et à Cambridge. À Cambridge, où il a fait des études achevées d'archéologie et d'anthropologie, troisième degré. Fils d'un médaillé olympique d'aviron. Son père a eu la médaille d'or d'aviron en 48 aux Jeux Olympiques. Donc, lui-même, Hugh Laurie, a été sélectionné en équipe d'Angleterre junior d'aviron. Il a fait les championnats du monde junior d'aviron où ils ont terminé quatrième. Il a également été dans l'équipe, tu sais, le duel entre Oxford et Cambridge sur la Tamise. Ils ont perdu, hein, d'ailleurs. Ils ont perdu. Et puis bon, son commentaire, c'est on a perdu de 5 pieds, hein, de 5 feet seulement, quoi. Enfin bon, j'étais numéro 4, alors bon, je m'intéressais pas trop à ça. Bof. Il est également écrivain, auteur du best-seller qui s'appelle The Gunseller, le marchand d'armes. Douglas Adams le voulait dans le rôle de Arthur Dent avant qu'il
dans,
crève.
Guide du Routard Galactique.
Dans le Guide du Routard Galactique. Hugh Laurie, on l'a vu apparaître, bien sûr, à la télé anglaise. Hein. Au départ de sa carrière, il fait la connaissance de Stephen Fry et d'Emma Thompson dans les années fin des années 70, hein, alors qu'ils étaient encore à l'école, enfin en fac à Cambridge et à Eton. Puis il commence à tourner dans de nombreuses séries. Il a un rôle récurrent dans The Blackadder. Blackadder, c'est la série de Mr Bean avant Mr Bean, hein, la vie
pseudo historique qui se déroule sur 4-5 époques.
Voilà, ouais c'est ça, hein, dans lequel il joue un rôle d'enfoiré de première. On le voit apparaître dans The New Statesman. On le voit apparaître.
Ça aussi, c'est la meilleure série parodie politique jamais vue.
C'est le
député le plus à droite de l'extrême droite. Quand t'as Margaret Thatcher qui arrive au House of Parliament parce qu'elle veut se relancer dans la politique et s'assied à côté d'elle, t'as le mec qui se retourne qui fait « Mais qu'est-ce que tu fous là, connasse ? Mais partons, t'as assez vu !»
Oui, excellente série. Excellente série, hein, de toute façon. Quoi. On le voit apparaître dans l'épisode de Friends où c'est qui se marie en Angleterre ? C'est l'archéologue, là, hein,
oui.
le paléontologue.
Bah, Matthew Perry ?
Non, c'est l'autre, c'est...
Pas Matt LeBlanc, l'autre là, le.
Voilà, ouais, voilà, le troisième.
Qui c'est déjà?
David Schwimmer.
Ah oui, le.
David Schwimmer, puisque. Voilà, c'est ça, parce qu'à un moment, il a rompu avec Rachel, et puis bon, il se trouve une petite anglaise et tout, et puis bon, ils vont se marier, et puis bon, il y a tout le monde qui part en Angleterre. Et l'épisode, le fameux épisode qui est absolument excellent. Hein,
c'est la fin de la saison 7.
C'est un double épisode, hein, c'est le mariage, ça se passe en Angleterre. Et il y a Hugh Laurie également dans cet épisode. On le voit également dans Spooks, une série plus récente qu'on connaît mieux chez nous sous le titre MI5, hein, qui avait été diffusé par Canal+ et par une autre chaîne. Sinon, au cinéma, bah, comme c'est un copain de la bande, Stephen Fry, Emma Thompson et Kenneth Branagh et tout ça, c'est-à-dire un bon quand même qualité. On le voit dans le film Peter's Friend en 92, dans Sense and Sensibility. Et c'est d'ailleurs à la suite de la... c'est quand les producteurs américains ont vu Sense and Sensibility, qu'ils ont vu Hugh Laurie, qu'ils ont décidé de choisir Hugh Laurie dans le rôle de Dr. House, parce qu'ils trouvaient que pour un acteur américain, il avait un bon accent anglais. Véridique. On le voit également... On le voit également un an plus tard, Sense and Sensibility, hein, c'est de Jane Austen, hein, c'est Raison et Sentiment, enfin bon, toute cette série-là. On le voit un an plus tard dans Les 101 Dalmatiens, on le voit dans Les Borrowers en 97, on le voit dans Spice World également.
Oh non,
on le voit également comme le papa de Stuart Little dans la série des films de Stuart Little.
Ah tiens, j'ai juste tombé dessus la dernière fois. Là,
voilà. Dr. House, il est marié, il a 3 enfants, enfin Hugh Laurie, hein, en fait, hein, marié, 3 enfants, donc, et bon, rien à dire, hein, il est également motard, il est également musicien, et il joue avec un groupe de temps en temps. Alors là, en ce moment, comme il tourne avec le Dr. House, ça se passe à Hollywood, donc il habite à Hollywood, mais sa famille reste en Angleterre, donc il fait souvent des va-et-vient. Bref, excellente carrière de toute façon, et il faut dire qu'il n'y a pas de problème, hein, c'est un rôle qui est vraiment fait pour lui. Et si vous allez d'ailleurs sur le site qui est consacré à la série, il y a vraiment un truc qu'il faut aller voir, hein, c'est les répliques les plus remarquables du Dr. House dans la série. Et là, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, hein, parce que, et c'est là qu'on se rend compte que la traduction et la version française est vraiment très très bien foutue, hein, vraiment ils se sont donné ils se sont cassé le cul, hein, pour trouver des trucs qui collent, parce que vraiment il faut le faire, hein, c'est excellent. Donc Dr. House est interprété par Hugh Laurie, sans oublier les autres, hein, de toute façon. Et Hugh Laurie, on peut le voir demain également dans un film britannique, avec pas mal de gens que j'ai cités avant d'ailleurs, hein. Le film, c'est sur Teva demain soir à 20h50, Comment les Anglais se reproduisent, c'est le titre du film, avec Rowan Atkinson, donc Blackadder ou Mr Bean, voilà. Joely Richardson, qui est la femme du docteur du docteur Patroy, l'autre dans Nip Tuck, la blonde dans Nip Tuck,
D'accord, celle qui finit, qui a couché aussi avec l'autre, avec
voilà, ouais. Il y a également Adrien Lester et Johanna Lumley. Johanna Lumley dans ce film, Johanna Lumley, Absolutely Fabulous. Ouais. Ok, ah, qui est également dans la dernière série de Chapeau Moulin et Bottes de Cuir.
Ah, il y en a une nouvelle.
Comment?
Ah, la dernière série.
Non, c'est Pearl Day.
Pearl Day.
Ah, c'est oui,
Pearl Day.
Okay. C'est elle qui a été. C'est là où ça a été la surprise. C'est 20 ans après, quand on l'a redécouverte dans.
30 ans après.
30...
Presque 30 ans, 25 ans après. Hein.
25 ans après, ouais, pardon. Ouais. Oui, dans Absolutely Fabulous, où elle fait ce rôle absolument mais démonté, quoi.
Voilà, tout ça, donc c'est Monsieur Hugh Laurie. Donc je rappelle, hein, encore demain soir. Et je pense que bon, bah, les épisodes diffusés mercredi dernier seront diffusés avec le décalage oblige. Seront diffusés dimanche en 15 ou dimanche en 8. Voilà pour la télé. J'ai oublié des trucs, mais enfin bon, c'était un petit peu le bordel à préparer ce matin. Donc,
t'as vu l'heure,
m'excuser. Hein.
T'as vu l'heure, je te rappelle que t'es un mondial là.
Hein. Non, pas encore. Hein. Allez.
Trois semaines encore, non?
Ouais, un peu plus de 3 semaines, cool.
Mmh. 13h26 minutes et 12 secondes. Ils sont chauds mes CD, ils sont chauds. Bah oui, je sais, mais moi je suis en train de prendre le micro, donc voilà quoi. Et donc vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, la suite des programmes sur Radio FMR à partir de 15h, du reggae avec Zarma Faroui, c'est du reggae. Non, je déconne, ceci dit, tu feras une bise à part, hein, à Poupa Christopher. 17h du punk, vie d'ordure, 18h, donc eh ben, tout simplement, tu peux l'ouvrir, une émission participative, numéro de la station c'est 05 61 580 580. Et appelez quand on vous y invite, c'est pas évident sinon. 20h, la Cétéro Expérience, c'est de l'électro bien barré. 21h30, on continue dans le marais dans l'électro avec Liquid Sky. À 23h, Breakbeat Experience, c'est du Jungle Drum and Bass. Je vais pas demander le résumé de l'émission à Thomas, mais bon, on a bien entendu parler de Nip Tuck et de Dr House. Je vais me planter deux fois dans la réalisation. Et puis ceci dit, ben, y a eu un film chroniqué, mais on s'était trompé, c'était pas l'adaptation d'une série mais d'une autre. Et oui, que voulez-vous, vous écoutez FMR, nous sommes en direct sur 89.1 MHz jusqu'à 5h du mat. Et c'était Supplément Week-end, rendez-vous samedi prochain, hein. Et sinon vous pouvez nous réécouter sur le site internet de l'émission, vous cherchez Supplément Week-end, FMR ou Radio, un truc comme ça, vous allez tomber sur nous, on s'est forcé, c'est obligé, vous allez voir, c'est super sympa, vous pouvez réécouter pratiquement toutes les émissions, et celle-ci était la 70e. Voilà, see you, ciao, et rendez-vous la semaine prochaine.
Une petite dédicace à Sabrina qui fête ses 28 ans demain.
Ah oui, tiens, j'avais oublié. Ah,